Formulabula.
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 Formulabula. Je veux être calife à la place du calife.
1 000 milliards de 1 000 sabords.
Je dirais même plus.
Pressez ce bouton et criez dring.
Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien.
Ils sont fous ces romans.
Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire.
Formulabula, bande dessinée et plus si affinité.
Alors je vais présenter quand même juste dans les... de manière un peu générale le projet, comment on est arrivé à éditer effectivement ce projet un peu hors norme. Donc pour situer juste un petit peu grossièrement les éditions 2024, ben on est une maison d'édition née en 2010 avec essentiellement une attention portée à la création contemporaine. Donc c'est plutôt des jeunes illustrateurs à l'époque. Bon, maintenant on commence à vieillir, tout, voilà, de bandes dessinées et aussi du livre illustré. Et depuis sa création, parce qu'en 2010, on a quand même à cœur aussi de remettre à jour des projets, soit qui ont été un peu passés sous le radar ou qui n'ont plus été réédités. Donc on a eu une première édition de bande dessinée de Gustave Doré qu'on avait fait à nos débuts. Puis on a poursuivi avec d'autres projets un petit peu étonnants et dans l'idée effectivement de boucher un peu les trous de l'histoire de la BD. Parce qu'effectivement... c'est une histoire où y a beaucoup de production, mais en fait, on oublie un peu ce qui s'est passé dans les débuts de la bande dessinée qui date du 19e. Et alors, ce projet-là, ce n'est pas de la BD. On va vous présenter tout ça. Peut-être le plus simple, c'est de présenter un petit peu la découverte en fait, de ce projet-là. Donc, c'est là, on remonte là à plus de 10 ans, en 2012, je dirais.
Quelque chose comme ça. 2012, donc là, ce que vous avez devant vous, c'est des livres anciens japonais qui datent du début du 19e. Et là, on a déballé sur la table l'équivalent d'une édition complète et demie. L'édition complète sur laquelle on appuie notre livre, elle comporte 40 fascicules, enfin, livres qui se présentent comme ceux que vous avez sur la table, et qui sont découpés en tranches de 10 livres. C'est pour ça qu'il y a des séries de couvertures qui sont de la même couleur, avec le même motif, qui correspondent à chaque fois à un moment de publication. La première série, c'est 1806, la dernière, c'est 1837. Donc comment on tombe sur ces images? À l'époque, on farfouille assez régulièrement, ici ou là. Enfin, on essaye de laisser traîner nos yeux pour découvrir des images qui ne sont pas dispo et sur lesquels on aurait envie de travailler. Et à l'époque, c'était un site internet qui s'occupait de patrimoine d'illustration et de bande dessinée qui s'appelait Coconino, qui était animé par des angoumoisins. Il y avait un article Dragon Ball par Okusai qui a attiré notre curiosité et qui présentait comme ça des images de l'estampe ancienne, période Edo. Période Edo, c'est Hiroshige Okusai, c'est les grands noms de ce qu'on associe à l'estampe japonaise. Mais en noir et blanc, qui présentait des combats, tout un bestiaire, des boules de feu, enfin, des trucs assez vivants et dynamiques qui nous ont intrigués. On tire le fil de ces images-là, on essaie de comprendre d'où ça vient, de quoi il est question. Et donc on finit par identifier cette édition qui est une traduction en japonais au début du 19e d'un des plus grands piliers de la littérature chinoise qui s'appelle La Pérégrination vers l'Ouest. Et donc qui arrive probablement plus tôt que ça au Japon sous forme orale, enfin, ça, je te laisserai développer, mais dont c'est la première traduction complète, intégrale, illustrée, à une époque au Japon où le contexte éditorial étant hyper vivant, il y a un vrai appétit comme ça des lecteurs pour ces formats longs et feuilletonnants, et des libraires qui se lancent dans ce projet un peu fou, là, qui va s'étendre sur plus de 30 ans de publication, qui comporte donc 500 gravures en double page pour 250 images, avec 3 illustrateurs. Et voilà, donc on identifie ce livre, ce projet, on commence par aller voir le musée Guimet pour leur dire, bon, nous on est un éditeur de bande dessinée, puis en même temps ces images-là, elles nous paraissent hyper chouettes, il y a vraiment l'envie de travailler dessus, on ne sait pas trop par quelle boule prendre. On y voit quand même, sans que ce soit directement, enfin, ce serait vraiment abusif de dire que c'est l'origine du manga, mais par contre, on y comprend en tout cas toute la naissance d'un terreau visuel dans lequel il y a quand même des façons de faire, des façons de comprendre la compo, la dynamique d'image qu'on retrouve dans nos lectures plus contemporaines. Et donc le musée Guimet nous aiguille vers le grand spécialiste, le historien des livres de cette époque-là qui s'appelle Christophe Marquet, à qui on présente le projet et que le projet intéresse. Et puis du coup, par son intermédiaire, on rencontre une équipe d'universitaires qui vont nous aider à construire le projet éditorial, dont Evelyne, et Delphine Bullard, Vincent Durand-Astès et Xavier Gilbert, qui vient plutôt de la bande dessinée.
Alors, bon, pour l'anecdote, on a un éditeur basé à Strasbourg aussi historiquement, parce qu'on a fait l'école des arts déco tous les deux. On est encore basé là-bas et c'est assez drôle de faire à peu près le tour du monde par le Japon, les fonds historiques pour arriver finalement...
Christophe Marquet, il est au Japon. Voilà.
Bah, pour arriver de retour dans notre fière ville d'Alsace. Bon, juste pour compléter, effectivement, Olivier, je vais redire un peu la même chose, mais on est arrivé un peu par ce projet complètement... ignorant, en fait, on est un peu comme le grand public à avoir vu certaines images. Bah, Okuzai, on a la manga. Il y a certaines typologies d'images aussi, plutôt portées sur le quotidien, certaines images de paysages un peu poétiques. Enfin, alors, c'est très cliché ce que je vais dire, mais effectivement, des envols d'oies sauvages sur un grand lac avec le mont Fuji. Voilà, c'est un peu. On était sur ces images un peu clichés, voilà. Et tout en étant effectivement adepte de ces images-là, en tombant sur cette masse d'images complètement différentes, donc avec des motifs différents, c'est-à-dire des combats, des monstres qui se tapent dessus, des gerbes de sang, des films gore, et des compositions en fait vraiment très chargées, là où en fait les images un peu d'estampes qu'on a beaucoup vues sont plutôt dans la 16 et dans le... comment quelques éléments parviennent à composer une image complète, mais avec très peu. Et là, au contraire, on est dans des accumulations, des fois, qui sont incroyables et qui, du coup, tranchent complètement avec, effectivement, voilà, nos idées préconçues.
Ouais, en fait, on prend vraiment conscience qu'il y a, à côté de toute la production, cette imagerie qu'on connaît d'illustrations de poésie ou contemplatives, ben non, en fait, il y a une masse... colossal d'images qui existent, qui sont hyper narratives, et ce qui nous permet, nous aussi, de raccrocher à ce qu'on fait, à la façon dont on a toujours compris le catalogue 2024, hein, avec un ancrage dans la fiction, et puis une envie de s'appuyer là-dessus, quoi. Et effectivement, en plus, pour ce livre-là en particulier, on a aussi un fil qui nous y relie via Dragon Ball, avec le personnage du roi singe Son Goku sur son nuage avec son bâton, qui est donné directement, plus tard, le démarrage de Toriyama, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que nous, on est parti d'une sorte d'intuition géniale d'arriver effectivement quelque chose de complètement nouveau sur lequel effectivement on avait besoin de... Bah, de la même manière que l'histoire de la pérégrination vers l'Ouest, c'est l'histoire donc, du moine Tripitaka qui va se retrouver à devoir se lancer dans une grande odyssée et se trouver des acolytes pour ce voyage et l'épauler dans cette grande épopée. Bah, voilà, on a trouvé un peu au travers de quelques bonnes fées comme le musée Guimet qui nous a guidés vers... Christophe Marquet, etc., se retrouver épaulé de personnes aguerries pour mener ce combat-là vers cette édition qui aura mis du coup à peu près...
Ouais, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Je dirais que le combat là-dessus, ça a d'abord été déterminer quel objet éditorial on voulait construire autour. Donc là, vous aurez l'occasion de manipuler un peu les bouquins, vous verrez que c'est principalement du texte. C'est déjà une version abrégée du texte, mais c'est d'abord un roman, avec un peu d'illustration. Ce qu'on n'avait pas tout à fait perçu la première fois qu'on est entré en contact avec les images, parce que les textes n'avaient pas été scannés, et puis il y a déjà une telle masse d'images qu'on s'était... Et reprenant des personnages très identifiables, on pouvait quasiment suivre une histoire sans ça. Mais non, en fait, il y a 15 ou 20 pages de texte pour 5 ou 6 pages d'illus, quoi, par livre. Donc c'est d'abord un roman, le texte, il existe en français, dans une traduction d'André Lévy à la Pléiade, et ça fait 2 volumes. Et nous, c'était pas notre métier de nous lancer dans une édition complète du texte illustré qui aurait fait pour le coup 4 ou 5 000 pages. Ça n'avait pas de sens, c'était pas à nous de le faire. Et en même temps, ces images, elles prennent sens. Pour les rendre accessibles et compréhensibles, il fallait quand même les replacer dans un fil narratif, les replacer dans un contexte qui permet de les appréhender. Donc le choix qu'on a fait, après être passé vraiment par tout plein d'options différentes, ça a été de tout réunir déjà... de tout publier, c'est-à-dire de montrer toutes les images qui sont dans cette édition, de les réunir en un seul livre. La question du coffret s'est posée, mais on avait toujours quand même envie d'un bouquin qui se lit pour de vrai. Et on a un doute sur les coffrets à cet égard. Et pour chacun des 100 chapitres qui composent l'histoire de la pérégrination vers l'Ouest, on propose un abrégé, un argument, donc un résumé de ce qui se passe dans le chapitre, en lien avec les images qui illustrent cet argument, ce qui permet du coup à chaque fois de situer l'image dans le contexte narratif, tout en ayant une lecture très brève du fil. Et par contre, on s'appuie autant sur les titres de chapitre que sur les noms des personnages, sur la traduction d'André Lévy, ce qui permet pour un lecteur qui serait curieux de faire le travail en entier, de lire le texte intégral dans la Pléiade et de s'y retrouver quand même facilement avec notre corpus d'images. Donc le livre, il y a une première maquette en blanc, le format a un poil changé, mais ça vous donne une idée de la pagination. On est sur 836 pages, il y a 500 pages d'images et de textes, et 250 pages de textes de préface et de postface pour à la fois présenter le contexte éditorial de l'époque Edo, proposer aussi une histoire du texte chinois, la pérégrination, et à partir de quand et comment il s'impose dans tout le folklore asiatique en général. Et un texte de Gavier aussi, Gilbert, sur les rebonds de ce personnage dans la culture populaire japonaise en particulier, puisque c'est un récit qui est sans cesse repris, réinventé, remanié, réinjecté dans des jeux vidéo, des séries, des films, et jusqu'à Dragon Ball qui est le plus célèbre, mais c'est un parmi vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc voilà comment on a fini par concevoir l'objet. Et à partir de là, je vais laisser Evelyne parler un peu de la pérégrination.
Moi, je vais peut-être faire comme vous. Donc, je suis Evelyne Le Signeau-Dolny. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg. Ma spécialité, c'est la littérature ancienne. Mais depuis longtemps, je m'intéresse au rapport texte-image pour comprendre comment sont conçus les récits au Japon. Et j'ai une autre collègue, également maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg, qui s'appelle Delphine Mullard, qui est historienne de l'art. Et qui s'intéresse au rapport texte-image pour comprendre les images. Donc ça fait très longtemps qu'on se rencontre, même avant d'être collègues, en fait, on se rencontrait assez souvent, puisqu'en fait, on avait les mêmes objets par deux approches différentes. On a vraiment à cœur de présenter ce qu'est la matérialité du livre japonais à un grand public. Donc on le fait aussi dans nos travaux plus scientifiques, mais on essaye de le faire à un grand public aussi. Et notamment, on a fait deux expositions ensemble à Strasbourg, où on a exposé des livres d'une collection alsacienne et on a aussi emprunté quelques-uns des livres de la collection 2024, dont ce livre. Et je vais peut-être commencer par ça, mais quand on fait une exposition de livres, il y a un truc extrêmement frustrant qui est qu'on n'y pense pas quand on n'a pas essayé de le faire, c'est qu'un livre, ça s'ouvre. Donc quand vous exposez une double page, sauf si vous pouvez massacrer les livres de 2024, ce qu'ils ont fait eux-mêmes, donc on a pu un peu exposer plus de pages, mais globalement vous exposez une double page comme ça. Et donc en fait vous donnez à voir une image mais pas un livre illustré. Et donc finalement, une des choses qui sont très séduisantes dans ce projet, c'est de pouvoir voir toutes les illustrations d'un livre. Ça déjà c'est extraordinaire. Donc comme l'a dit Olivier tout à l'heure, j'ai été contactée par Christophe Marquet, qui est un collègue de l'École française d'Extrême-Orient, qui est le plus grand historien du livre japonais en France, enfin, s'exprimant en français, et qui donc avait accepté de faire cette préface, une grande préface, pas si longue que ça, mais bien savante, qui situe l'existence de pourquoi un tel objet existe dans le contexte historique et éditorial de l'époque, qui resitue ça dans cette floraison éditoriale et notamment des livres illustrés du 19e siècle. Et donc, il m'écrit un beau jour comme ça en me disant « Voilà, je suis en contact avec un éditeur strasbourgeois qui souhaite faire ça et on a besoin de toi pour traduire les titres d'images et faire des résumés des chapitres. » Donc, avec ma collègue Delphine, on a donc accepté. Et en fait, on était très heureuses. Déjà, parce qu'on est toujours heureuse quand on est en contact avec des livres anciens. Mais en fait, comme on est un petit peu opportuniste, on y a vu une opportunité magnifique de pouvoir un petit peu remettre l'histoire des illustrations japonaises à l'endroit. Parce qu'on a souvent une vision déformée de l'art ou de la littérature japonaise quand on est en France ou en Occident en général. Par exemple, beaucoup de personnes ne connaissent de la littérature japonaise que le haïku, qui est un genre tardif et finalement relativement mineur, alors que les genres majeurs, c'est plutôt la poésie classique ou waka. De même, pour l'illustration, quand on est en France, on connaît que les estampes de Hokusai. Et on se dit, l'art japonais, c'est ça. Alors que l'art japonais, c'est plutôt la peinture. La peinture sur livre illustré ou la peinture sur paravent. Et c'est plutôt ça, le genre noble. Et quand on est dans l'impression, on n'est pas dans un genre noble, mais quelqu'un comme Hokusai, son métier n'était pas de faire des estampes, dont même en France, on sait maintenant que c'est quand même quelque chose d'assez mineur. Son premier métier, c'était ça, c'est-à-dire de faire des illustrations de livres. Et donc, de pouvoir dire ça à vous, c'est déjà un premier succès de cette édition. Et on voit qu'il y a toute une palette de technicité de gravure qu'on peut retrouver dans les estampes par ailleurs, mais qui est peut-être encore plus à l'œuvre dans ces illustrations-là. Donc elles sont peut-être moins plaisantes au premier abord parce qu'elles sont en noir et blanc, c'est plus séduisant de voir des estampes en couleur. Mais en fait, si on regarde la technicité de la composition de l'image, elles sont souvent plus inventives, plus variées. Bon, voilà pourquoi j'étais dans ce projet. Puisque là, on est en train de parler de métier et comment on a conçu les choses. Donc, ayant reçu cette mission-là, en fait, comme je ne sais plus lequel de vous deux le disait tout à l'heure, il existe une édition Pléiade en 2 volumes, une traduction d'André Lévy, qui est un grand sinologue. Donc, à partir de la version chinoise, il va falloir que je revienne pour expliquer ce que c'est que le contenu de ce livre. Mais je vous dis juste d'abord mon travail. Il y a eu une traduction à partir du roman chinois vers le français en 2 gros volumes de 1000 pages, Pléiade. Et dans ces 2 volumes-là, il y a des résumés qui existaient. Donc, à la limite, si Gallimard avait été d'accord, on aurait pu reprendre ces résumés-là. Et finalement, ce n'est pas le choix qu'on a fait en discutant, pour 2 raisons. La première, la plus importante sans doute, c'est que les résumés qui existaient dans le Pléiade ne faisaient pas forcément parler les images. Et puis, bah, l'autre raison, c'était bon, pour des goûts de lisibilité, de fluidité, on avait quand même envie de les réécrire. Et donc, on a imaginé qu'il y avait 2 façons d'entrer dans ce livre 2024, qu'ils étaient en train de produire. Soit une lecture linéaire, on a envie de lire une histoire, donc cette grande aventure rocambolesque. Donc, on la lit en passant d'un résumé à un autre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Puis on regarde les images, on se fait plaisir en regardant les images et on a une lecture linéaire. C'est tout à fait possible. Mais on a imaginé que peut-être que des lecteurs ne sont pas comme ça et qu'ils ont tout à fait le droit de brouter les herbes du chemin et d'avoir une lecture un peu plus avec de la sérendipité. Et donc d'ouvrir au pif, de voir une image qui les amuse, de tourner d'autres pages, de voir une autre image qui les amuse et simplement de ne pas être capable de lire ce qu'est cette image, ce qu'elle représente. Donc il y a des légendes, mais les légendes ne sont pas très parlantes. Et donc, on a essayé de rédiger les résumés de chapitres, toujours en se disant, bon, si un lecteur arrive par hasard sur cette image-là, en lisant 2-3 résumés un peu avant, un peu après, est-ce qu'il va comprendre de quoi il est question? Et bon, bah, ça a été en tout cas notre intention, on espère qu'elle sera perceptible. Donc, on a fait ça, on a travaillé donc sur du français, vers du français. On a un petit peu regardé le texte japonais quand on avait besoin, un petit peu avant, après l'image, pour être sûr qu'on comprenait bien le contexte de l'image. Mais globalement, on a travaillé sur du français. Donc là, ce n'est pas un travail de traduction. En revanche, là, on a pris les légendes existantes là-dedans, et on les a traduites en étant assez littérales. Et ces légendes d'images sont assez répétitives et assez simplistes. Donc, nos traductions, ben, on a fait pareil. Donc, souvent, c'est, par exemple, Son Goku assomme un monstre. Bon, voilà. Ou combat tel méchant. Mais c'est que ça. Donc, on l'a traduite telle qu'elle. Donc, ça sera peut-être un petit peu, un petit peu décevant pour le lecteur, parce que c'est pas des très beaux styles, mais on a respecté le fait que ces légendes d'images étaient très, très simples. Donc, voilà quel a été mon rôle dans cette aventure, donc avec Delphine Mullard. Donc, je vais parler de l'histoire. Au départ, on a un homme qui a réellement existé, qui était un moine du 7e siècle, dont le nom chinois est San Zhang, j'ai mal prononcé mais c'est pas grave, et son nom en sanskrit c'est Tripitaka. Dans la traduction française que nous avons reprise, c'est son nom en sanskrit Tripitaka qui est utilisé. Donc ce San Zhang Tripitaka était un très grand savant à une époque d'une grande effervescence intellectuelle pour essayer de comprendre le bouddhisme en Chine. Et en fait, il était insatisfait parce qu'il y avait plusieurs courants du bouddhisme qui coexistaient et il ne comprenait plus quel était le message. Il s'est dit « ça ne va pas du tout ». Et donc, il a entrepris un voyage qui était très long et périlleux pour aller en Inde. Donc ça, c'est tout à fait la réalité. Mais au cours des siècles suivants, cette histoire réelle s'est transformée en légende. Et au lieu de qu'on soit dans ces périls réels du voyage vers l'Inde et retour, en fait, on a une histoire complètement fantastique qui raconte qu'il a été assailli par toutes sortes de démons mâles et femelles parce qu'il avait une très grande ascèse, donc il avait une énergie vitale très pure, un yang extrêmement pur. Donc, tous les démons femelles veulent s'accoupler avec lui et tous les démons mâles veulent le manger pour s'approprier sa force vitale, virile, yang pure. Donc, ça, c'est une histoire qui a été sous forme de diverses légendes et qui a abouti à un des grands romans chinois de l'époque des Ming, qui s'appelle La pérégrination vers l'Ouest et qui date de la fin du XVIe siècle. Donc, il y a 4 grands romans de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, qui sont des énormes sommes qui ont été publiés en Chine sous forme de feuilletons avec des cliffhangers. Donc ça en est un. Donc ça a eu un énorme succès éditorial en Chine. Et au Japon, un siècle plus tard, alors qu'au Japon, il y avait aussi une production locale, c'est un âge d'or aussi de la production, de la fiction enfin, éditorial. Et oui, peut-être qu'aussi je devrais quand même dire que ce n'est pas des classiques au sens de des livres qui ont un haut statut de respectabilité. C'est des livres de divertissement, mais qui sont des succès éditoriaux extraordinaires. Et donc, il va se reproduire exactement la même chose au Japon. Et donc, il y a eu une première tentative de traduction qui n'a pas vraiment abouti. Et au bout de 80 ans et 5 traducteurs différents, ils sont arrivés à faire un texte qui est une traduction abrégée en japonais. Et puis, donc début 19e siècle, mais ça a déjà été raconté, il y a eu une entreprise éditoriale pour faire des illustrations qui allaient avec. Et cette édition qui s'est développée sur 30 ans de temps avec 3 illustrateurs différents. Donc c'est vraiment toute une aventure aussi complètement rocambolesque, presque autant rocambolesque que celle de Tripitaka qui va chercher le texte bouddhique en Inde et qui revient, cette épopée éditoriale de ce livre au Japon. Et c'est ce que nous raconte Christophe Marquet dans sa préface. Et donc, juste pour finir aussi le contenu de l'histoire, donc l'histoire, globalement, c'est donc Tripitaka qui va en Inde et qui revient, sa quête réussi à la fin, malgré tous les périls. Mais ça occupe en gros les chapitres 11 à 100. Et en fait, le début, enfin surtout les chapitres 1 à 8, c'est un préquel. Voilà, je pense qu'il y a des gens de générations différentes, mais si vous êtes habitué à des séries Netflix, je pense que vous pouvez vraiment avoir la compréhension de ce que c'est. Donc si on considère que l'histoire de Tripitaka qui va en Inde et qui revient, c'est Breaking Bad, en fait, les chapitres 1 à 8, c'est Better Call Saul. Et qu'est-ce qui se passe dans ces chapitres 1 à 8 ? En fait, c'est l'apparition d'un singe, qui est au début un singe de pierre, qui devient un singe vivant, qui est désigné roi, et qui est un personnage complètement incontrôlable, parce qu'il veut devenir l'égal des dieux, il apprend plein de pouvoirs magiques, il commence à savoir se déplacer sur un nuage, notamment, et il est tellement insupportable qu'il est emprisonné par les dieux, qui n'en veulent plus du tout, jusqu'au moment où, pour les besoins de ce qui va être la quête de Tripitaka, allant chercher les textes saints, la grande divinité bouddhique, qui est Guanyin en chinois, Kannon en japonais, va asservir ce singe un peu foufou et lui dire « Ben, toute ton énergie, tu vas maintenant la mettre au service du bien et tu vas aider ce moine. » Et en fait, ce moine va réussir cette quête grâce à 4 acolytes, 3 principaux plus un dragon transformé en cheval. Et donc, les 3 acolytes principaux, c'est donc ce roi singe qui s'appelle en japonais Son Goku, qui va donner naissance au personnage que peut-être certains d'entre vous connaissent dans Dragon Ball Z. Même si l'histoire est complètement différente, le personnage vient de là. Et 2 autres personnages qui sont des ogres, un qui a une allure de porc et un qui a une allure de démon des marécages, qui sont donc Son Goku, le porc, le démon des marécages, plus le dragon cheval, se mettent au service de la quête de Tripitaka. Et donc, c'est ça que nous raconte cette histoire. Voilà.
Ouais. Donc, à partir de cette édition originale, publiée du coup entre 1806 et 1837, dont voici les petits volumes, qu'on a d'ailleurs, bon, pour l'anecdote, dû acquérir, parce qu'en fait, quand on a fait tout ce travail, effectivement, d'aller voir aussi le musée Guimet, etc., bah, on ne peut pas non plus se présenter en tant qu'éditeur avec un projet éditorial, leur demander de dépiauter, découper les éditions pour pouvoir les scanner. Parce qu'en fait, si vous voulez, on vous montrera, ce sont des volumes qui sont reliés avec une couture dans la main, mais pour les besoins de reproduction, en fait, on est bien obligé de dépioter, c'est ce que Philippine expliquera ensuite. Et du coup, effectivement, on est parti, on a dû acquérir sur bêtement eBay. Originale.
Dans mon souvenir, c'est entre 1500 et 2000 euros qu'on avait payé la première édition complète. Et en fait, en la faisant venir, les séries étaient inégales en termes d'impression. Donc c'est aussi pour ça qu'on en a acheté une deuxième, puis la moitié d'une troisième, pour essayer de constituer comme ça une base dans laquelle on aurait le loisir de choisir quelle image est la mieux imprimée des 3 pour essayer d'avoir un degré constant, quoi.
On va laisser Philippine enchaîner sur le sujet.
C'est mon travail. Ouais. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est les séries dont il parle. Et ils sont en double ou en triple. Et donc, mon travail à moi, notamment, ça a été de... Donc, on a dérouillé tous les livres. Ensuite, j'ai scanné tous les livres, sachant qu'il y en a plein et que... Donc, c'est des feuillets qui s'ouvrent. Il y a le texte aussi en transparence, donc il fallait mettre une feuille blanche pour pas qu'on voit le texte dans tous les trucs. Et en plus, j'ai scanné plusieurs fois parce qu'on a changé de scanner qui est devenu meilleur. Donc en fait, j'ai fait à peu près 1500 scans. Et ensuite, avec toutes ces images, il a fallu choisir laquelle était la mieux imprimée. Donc, au bout d'un moment, je commençais à connaître vraiment les éditions. Il y en a qui sont très bien imprimées, mais qui ont subi beaucoup le temps. Donc, il y a des trous de verre où le papier est devenu jaune, mais l'impression est très très fine et c'est super, mais on ne peut pas forcément s'en servir. Alors qu'il y en a d'autres où, à mon avis, le bois était peut-être un peu plus abîmé et les impressions sont plus grasses, mais on les voit mieux, le papier est mieux. Et du coup, il a fallu jouer avec tout ça. Ensuite, ce qui est bien, c'est que comme c'est des éditions en gravure, c'est les mêmes bois qui ont été utilisés, a priori. Et donc, c'est exactement les mêmes images. Et sur Photoshop, on peut facilement faire des petits puzzles d'images. Donc, dans une des images-là, en fait, il y en a trois là-dedans. Quoi. Et après, il y a plein d'autres questions qui ont dû se poser pour faire de ces livres-là un seul livre. Et ça a été des questions techniques, par exemple le papier, comme c'est plein d'éditions différentes. Le papier, il n'a pas toujours la même couleur, il n'est pas la même qualité. Donc la question, elle s'est posée de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on montre à quoi ressemble le papier. Mais l'idée, c'était pas de faire un fac-similé, donc de reproduire avec des photos le bouquin, mais de proposer une lecture qui soit pas parasitée par tout ça, et du coup, de homogénéiser vraiment toutes les images du début à la fin. Ça passe par le papier qu'on a. Après avoir fait des tests, en fait, on a fait des épreuves. C'est des impressions qui vont simuler l'impression offset. Donc en offset, c'est pas possible de faire un exemplaire. Donc ça simule un peu à quoi va ressembler l'impression. Donc on s'est servi un peu de ces épreuves pour voir quel filtre on pouvait appliquer pour que ce soit le même rendu un peu sur toutes les images. Choisir si on imprimait le livre en noir et blanc ou en couleur. Il y a plein de questions comme ça qui sont posées. Par exemple, en couleur, c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs couches d'encre. Donc, ça vient soutenir le noir et ça va être plus dense.
L'idée n'a pas été de rajouter de la couleur sur les images, mais simplement d'utiliser éventuellement les quatre couleurs d'une presse offset pour imprimer le noir et blanc ou d'imprimer qu'avec en encre noire. Au lieu de construire la couleur avec une encre, on l'a construit avec quatre et donc on peut être plus fin sur ces variations. Mais au final, ça reste des images noir et blanc dans les possibilités.
Le choix qui a été fait, c'est d'imprimer en noir plus un pantone. Donc un pantone, c'est une couleur grise qui va juste venir soutenir les noirs pour que les noirs soient bien denses et aussi venir chercher des finesses pour les gris. Et du coup, il y a ce genre de questions qui sont posées sur le livre, mais aussi des questions de les images, elles sont présentées dans des petits livres. On a voulu un petit peu les montrer, on a fait des tests pour voir à quelle échelle ça peut être intéressant aussi de les voir, donc ils sont un petit peu agrandis. On a plus de marge aussi autour des images, là elles sont dans le livre, elles sont très serrées. On voit que c'est vraiment des doubles. Quand on les ouvre, ça fait un peu la continuité. Là, on les a présentées un peu différemment, mais en jouant avec les cadres qui, là-dedans, elles sont très épais. Et c'est souvent de travers. Et donc là, pour que la lecture, en fait, elle soit aussi facilitée, on a fait un truc un peu suisse. Là. Les rectangles, elles sont en bleu droit. On a un peu redressé les images. On a fait tout un tas de choix pour que la lecture du livre, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de lire le livre et de regarder les images, ne soit pas embêtée par plein de détails techniques. Quoi. Donc on a fait aussi plein d'autres choix pour le livre, la maquette, à quoi elle ressemble. On a l'habitude plus de travailler sur de la bande dessinée. Et là, c'est un livre qui s'inscrit un peu plus Beaux-Arts. Donc on allait regarder aussi en librairie. C'était quoi un livre Beaux-Arts? Et on a des outils, en BD aussi, on a des outils comme ça, hein, pour choisir pour la fabrication, on a plein d'échantillons. Ça, c'est vraiment très très beau à regarder. Pareil, pour faire du marquage, on a plein de choix, et c'est ça un peu le problème aussi, c'est qu'il y a vachement de choix tout le temps. Et on a fait énormément d'allers-retours, comme c'est un peu un processus créatif, il n'y a pas d'auteur à qui on peut consulter pour demander quoi tes intentions, c'est à nous de faire ces choix. Et,
c'est aussi pour ça d'ailleurs que le livre est retardé d'une année chaque année. Parce que tant qu'il y a un auteur vivant, on a quand même une pression plus forte pour tenir un livre. Mais là, ce que tu pointes, c'est un des trucs fondamentaux, de toute façon, de notre quotidien d'éditeur. C'est qu'on est responsable de l'objet qu'on construit autour d'un projet éditorial et qui va être fondamental dans la façon dont il est reçu, lu, dont il se diffuse. Donc les choix de papier, les choix de fabrication, c'est à la fois un énorme enjeu, puis en même temps, c'est aussi un des endroits sur lesquels on s'amuse le plus quand on réfléchit à un livre.
Alors, il y a quand même aussi l'essentiel, c'est que c'est des images qui sont vraiment extrêmement belles à consulter, effectivement, sur ces éditions originales, mais qui sont effectivement sur un papier très fragile. Ce plaisir, il est à la fois presque sensoriel, c'est-à-dire que ce toucher de papier, cette délicatesse de la transparence, voilà, tout ça concourt au fait que ces images sont vraiment très belles. Et c'est vrai que les choix qu'on a essayé de faire, enfin, une somme de choix de fabrication éditoriaux, et là pour essayer de restituer en partie un peu ce mode de lecture en fait, sur ces ouvrages-là. Donc là, en fait, on a dû, au travers de plein de recherches, etc., dû s'orienter notamment sur un papier qui est au plus proche de cette souplesse, parce que c'est des papiers extrêmement souples. Alors, c'est des fibres très particulières. Je ne saurais pas dire la fabrication exacte des papiers.
S'il y a des questions sur le papier, ouais. Je pourrais enchaîner après.
Voilà, tu pourras effectivement... Du coup, on a trouvé effectivement un papier très léger, mais quand même assez opaque pour permettre effectivement que le livre soit lisible, mais qui est quand même un petit peu transparent. Enfin voilà, ce sont des...
Ça s'appelle comment, le papier que vous avez choisi?
C'est du Holmen.
Alors fait papier en... suédois.
Ouais, suédois. Et effectivement...
Il a une super mollesse, il a une très grande souplesse, et il est hyper léger, ce qui est aussi agréable par rapport au volume du bouquin dont on ne voulait pas que ce soit une Bible écrasante.
Ça, et puis il a aussi une teinte qui est quand même proche, on va dire, des éditions originales. Donc effectivement, on s'est orienté là-dessus. L'idée de la bichromie aussi, ça permet aussi cette finesse et puis d'avoir des noirs très denses. Tout ça fait qu'effectivement, espérons-le, puisqu'en fait Olivier Filippino au galage début octobre en Italie pour imprimer le livre, l'idée c'est que ce soit effectivement de très belles images qui honorent les originales.
On fera peut-être compte qu'on s'est complètement gouré dans les choix. Ouais.
Mais voilà, donc dans le pire des cas, ça ressemblera à de la vieille photocopie. Et dans le pire des cas, ça sera magnifique.
Ouais, moi, j'ai passé un temps infini à retoucher les images aussi. Il y a énormément de trous dans les images. Et au fur et à mesure, j'ai pris la confiance. J'ai redessiné avec une broche Photoshop les images. Donc ça se voit pas, mais j'ai dessiné... 40 000 pages.
Et c'est là où c'est vrai que si on avait fait un livre scientifique, bon, après le problème c'est qu'on bute sur le fait que le volume est tellement énorme que personne ne le fera jamais. Puis là de toute façon c'était votre projet donc on n'allait pas changer d'orientation, bon, ça ne nous aurait même pas venu à l'esprit. Mais si on devait faire un livre scientifique sur ça, on ferait des facsimilés, on reproduirait l'intégralité du texte, ou je ne sais pas quoi, on ferait quelque chose comme ça. Et là, c'était clair pour nous que ça serait de toute façon pas ça. Mais quelque part, c'est pas la fidélité, on va dire scientifique aux images, mais je pense qu'il y a une fidélité à l'usage des images et à la consommation des images, puisque je pense qu'on va retrouver le plaisir qui était celui du lecteur de l'époque d'Edo. Et Christophe Marquet, dans la préface, donne une citation qui rappelle que c'était vraiment un choix éditorial conscient au XIXe siècle hein, pour des livres qu'on appelle des yomihon, qui étaient un petit peu savants, mais aussi des histoires très plaisantes, d'introduire les images. Les éditeurs étaient conscients que les lecteurs achetaient d'abord ces livres pour les illustrations. Donc, en fait, d'être centré sur les illustrations et de mettre un petit peu d'histoire pour qu'on comprenne les illustrations restitue une relation que les lecteurs japonais avaient aux images, en fait. Donc, finalement, il y a une espèce d'authenticité de la relation aux images, même si ce sont des images qui sont un peu trafiquées, on va dire.
La même façon d'ailleurs dont on a bossé sur les autres bouquins de patrimoine qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais positionné en historien de la bande dessinée quand on réédite Doré ou des trucs qu'on a fait avec la BNF, mais plutôt de se dire ben ce livre tel qu'il a existé à l'époque, il n'était pas vieux, il n'était pas abîmé, et l'intention des auteurs, des éditeurs quand ils l'ont publié, c'est plutôt en essayant de se rapprocher vers cette intention-là qu'on tranche nos choix et qu'on se dit ben l'auteur n'avait pas envie que son image soit bouffée par des vers sur toute la partie gauche. Donc on va les enlever, les trous de vers.
Oui, j'ai eu rendez-vous avant-hier avec la nouvelle éditrice de la BNF, parce qu'on avait fait des coéditions par le passé, donc on en fait de nouvelles choses à venir. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai proposé, pour différents choix, pour un prochain avenir, qu'on réécrive le texte avec une autre typo, etc. Et qu'on fasse comme les autres livres. Elle a dit, vous avez fait quoi? Et effectivement, on n'avait pas conscience que sur les éditions précédentes, on avait fait un certain nombre d'interventions qui étaient au-delà de ce que...
Qui étaient suffisamment juste de l'impression pour qu'elle ne s'en rende pas compte.
Oui. Bon. Mais en fait, oui, nous, c'est vrai que c'est ça, c'est la fidélité à l'usage, c'est-à-dire que les... Bon, mine de rien, la manière de lire, elle évolue aussi, et on essaye d'adapter un peu à la marge, effectivement, des petites choses pour essayer de faire en sorte que...
Quand on dit réécrire le texte, on n'a jamais réécrit les dialogues ou quoi, mais simplement...
Retaper, recaler
une typo qui soit propre et carrée, et pas des caractères trop dansants, mais en étant sur des caractères qui sont très proches. Enfin, ça reste des ajustements complètement à la marge, et en même temps qui changent fondamentalement le rapport que vous, lecteur, vous allez avoir avec. Tout d'un coup, tout un tas d'obstacles qui sont liés au fait que c'est du patrimoine, on essaye de les gommer au maximum pour respecter les enjeux du livre d'origine et en même temps permettre à un lecteur une lecture qui n'est pas une lecture scientifique, mais une lecture de plaisir. Parce que quand on... Et c'est pareil sur ce texte-là, c'est-à-dire que quand on va... Nous, éditeurs, qui sommes d'abord ancrés dans la jeune création ou d'autres choses, si on va vers ces bouquins-là, c'est pas seulement parce qu'ils sont... intéressant historiquement, c'est aussi et d'abord parce qu'en tant que lecteur, on a envie de les lire et que c'est des choix d'histoire. Et du coup, cette intention-là, on fait gaffe de pas l'écraser sous un vernis comme ça, une sorte de coque qui pourrait ressembler à de la sclérose parfois, quoi. Alors après, je m'aperçois qu'on a cité plusieurs fois Hokusai et évoqué rapidement le fait qu'il y avait trois illustrateurs dedans, mais ça a été quand même une vraie question aussi. Donc c'est le corpus, il est parfois attribué à Hokusai pour faire un raccourci, l'équivalent du Gallica japonais ou Waseda. La grande bibliothèque japonaise qui propose comme ça des numérisations, par exemple, les images lui sont attribuées. Et dans le détail, en vrai, donc, il y a trois illustrateurs qui travaillent. Un premier qui s'appelle Ohara Toya sur les 10 premiers livres. Un deuxième sur les 10 livres d'après, Utagawa Yushi.
Jusqu'à 30, jusqu'au livre 30, le deuxième. Ouais. Puisque c'est à partir du 31 qu'il y a...
Et sur la fin, donc, les dernières images sont signées au Hokusai, mais à un moment où, en rentrant dans le projet, on s'est rapidement aperçu qu'en fait, c'était un moment où Hokusai... le vrai, avait abandonné son nom à son premier disciple. Donc c'est pour ça que nous, on les attribue à Katsushika Taito 2 et qu'on n'a pas pu mettre notre gros bandeau Dragon Ball par Hokusai.
En fait, c'est le principal disciple de Hokusai qui a hérité de son nom, qui est l'auteur des images des livres 31 à... Non, pardon, 21...
Ouais, je crois que c'est 21 à 40.
Oui, mais ouais, 21 à 40, excuse-moi. C'est les chapitres 54 à 100. Et d'ailleurs, je pense que vous vous rendrez compte que l'illustration change complètement, le style d'illustration change complètement. Et surtout, là, de 21 à 40, enfin, des chapitres 54 à 100, il y a moins d'illustrations par chapitre, mais elles sont beaucoup plus inventives, l'image sort du cadre, il y a une composition très dynamique, il y a souvent la légende est incrustée dans l'image, comme si elle était écrite sur un poteau ou sur un nuage.
Un truc intéressant aussi que moi, j'ai pu remarquer, parce que je vois bien... Je connais bien les images, c'est qu'on voit que ça change d'illustrateur aussi parce que au début, Porcet, un des héros, son arme c'est un râteau et à la fin c'est plus un râteau, c'est une sorte de lance avec 9 trucs comme ça et j'ai lu dans la préface. C'est le traducteur qui a dit à l'illustrateur en fait c'était mal traduit là, c'est pas un râteau là, ton truc. Et du coup on voit que ça change d'illustrateur aussi parce qu'il y a ça qui change dans le livre et c'est dommage parce que le râteau c'est tout. Et oui, il y a plein de trucs qui sont hyper drôles, le râteau, il y a toutes les histoires, c'est hyper, moi j'ai lu, c'est super drôle, il y a Goku, donc c'est le singe, il est vraiment, en fait il retarde tout le monde, il fait que des conneries, Porcet aussi, on doit les arrêter parce qu'ils sont en train de bouffer des trucs et on leur donne, des fruits d'immortalité à quelqu'un, mais ça ressemble à des nouveaux-nés. Du coup, ils refusent de les manger et puis après, sur l'image, on voit qu'il y a Porcet qui est en train de bouffer les nouveaux-nés. C'est que des trucs. Non,
Et on sent que l'illustrateur s'est amusé et que parfois, il est allé un peu au-delà du texte. Et donc, quand on faisait les résumés, on avait ce genre de problème technique un peu de détail. Et il y a quelque chose de très, très fondamental qui est que, comme Son Goku, donc le roi singe, est complètement incontrôlable, la grande divinité Guanyin a fait don à son maître, donc Tripitaka, une sorte de diadème qui fait le tour de la tête. Ça, c'est quelque chose qui est très connu en Chine et au Japon. Quand on fait une invocation magique, se resserre. Donc, quand Son Goku devient trop insupportable, Tripitaka fait cette invocation, ça se resserre, ça lui fait une douleur insupportable à la tête, et donc il dit « Ok, je vais faire tout ce que tu veux ». Et dans la traduction d'André Lévy qu'on reprenait, il était question d'un bonnet. Et donc, on se dit « Mais si on fait le résumé en disant qu'il reçoit un bonnet, et puis qu'on voit sur les illustrations un diadème, ça colle pas du tout, et c'était clairement un diadème. Et c'est quelque chose qui s'est passé, en fait, même dans la traduction même japonaise, c'est plutôt une espèce de bonnet, mais une bonnet ornée de quelque chose de métallique. Donc on a trouvé une petite astuce pour que ça soit pas trop déroutant. On espère que ça sera invisible, mais c'est sûr qu'il y a des distorsions comme ça, texte-image, parce que l'illustrateur s'amuse ou parce qu'il y a une réception visuelle qui est pas la même que la réception du texte.
Juste pour quand même redétailler, bon là c'est la couve, une simulation du livre qui paraîtra du coup mi-novembre, en librairie.
Ouais, si vous avez des questions, et je pense qu'il y a certainement plein de points qu'on a
esquivés
au passage. Pas sous
on n'a pas cité le nom de Vincent Durand d'Astès aussi, fait aussi une préface, qui est professeur à l'ENALCO et spécialiste de littérature chinoise, et spécialiste vraiment de ce type de récit, donc ça recontextualise bien aussi dans l'histoire de la littérature, l'histoire intellectuelle chinoise.
Ouais. J'ai une question, en Chine, il y avait des éditions illustrées, il n'y a que les Japonais qui ont illustré.
Oui, il y a eu des éditions illustrées, et d'ailleurs dans le Pléiade...
Il y a quelques images.
Dans le Pléiade, il y a toutes les images de, sans doute, je suppose être l'édition la plus courante, et dans la préface du Pléiade, André Lévy rappelle tout ça. Et c'est vrai qu'elles sont moins marrantes.
Elles sont très naïves, mais il y a au tout début, les présentations des personnages, ça a été repris.
Oui, oui. De l'édition. Voilà, oui, oui. Alors, Christophe Marquet explique ça très bien. En fait, au début de chaque série de 10, il y a une galerie de personnages qui présente les personnages qui vont être dans les chapitres suivants. Et la galerie de personnages de la première série de 10, donc du premier volume, elle est reprise d'édition chinoise. Mais elles sont... déjà beaucoup moins nombreuses, les illustrations chinoises. Elles sont très littérales et elles sont un peu naïves et elles sont beaucoup moins rigolotes. Mais dans les premiers chapitres des histoires de Roi Singe, qui devient le Roi Singe, il y a quelques illustrations japonaises qui s'inspirent beaucoup des illustrations chinoises. Il devient le roi d'un peuple de singes qui habite près d'une cascade. Et cette illustration-là, on la retrouve... Enfin, c'est vraiment une espèce de traduction littérale de la même image. Mais après, on sent que les illustrateurs japonais se sont complètement... Enfin, ils n'avaient pas de modèle, ou de toute façon, ils avaient envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire.
De toute façon, en termes d'édition, c'est un bouquin où chaque problème est colossal. Sur la masse de pages, toutes les étapes que Philippine a parlé des 50 essais différents qu'on fait sur chaque fil, bah, ça va très bien marcher sur 10 images, mais en fait, il faut être capable à chaque fois de le retirer sur l'ensemble. Tu interviens sur le nom d'un personnage,
dans le texte, comme c'est 100 chapitres.
Enfin, la correction, il faut... À toutes les étapes, par rapport à une structure comme la nôtre, ça a soulevé des problèmes d'échelle, qui font que le temps a été long. En fait. Pour la correction, il faut aussi... Il y a déjà une masse de texte solide quoi, sur les préfaces, mais qui mélange du français, du japonais, du chinois, du sanskrit. Et on a 3 sur les 4 que je suis bien incapable de lire. Et y compris les correcteurs avec qui on a travaillé dessus. Quoi. Donc ça veut dire à chaque fois repasser, soit par Abin, soit par Christophe. Enfin bref, c'est un livre dans lequel il y a eu énormément de sujets, et chaque sujet était assez nouveau, parce que comme l'a dit Philippine, c'est vrai qu'en crache, dans la bande dessinée, alors que ce livre-là, il nous amène un peu sur les marges. Quoi. En tout cas, et même s'il rentrera dans la librairie et via le rayon bande dessinée, parce que le diffuseur est implanté là, il se retrouvera aussi au rayon Beaux-Arts, et on va travailler un peu à cheval entre des rayons. L'impression quadrillée est un de ses problèmes. Là, on n'a pas du tout parlé de comment ces livres étaient imprimés à l'époque, d'ailleurs, par l'impression, là. On a ramené les plaques ici. Mais donc,
Tu veux que je fasse un petit point
ouais,
tu veux le faire, toi
ça, ouais, vas-y, j'en prie. C'est les éditions originales en gravure sur bois, puis je vais laisser Abine expliquer comment ça fonctionnait techniquement.
Voilà, donc il y a... c'est pas un bois de la pérégrination vers l'ouest. J'ai essayé de l'identifier, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, mais c'est sans doute un récit édifiant sur une base bouddhique pour convertir les gens. Je ne pense pas que ce soit une œuvre majeure. Non, parce qu'ils ont dans leur collection une vie de Bouddha qui est illustrée par Rokusai Le Vrai et qui est Donc nous, ma collègue Delphine Muller et moi, on est totalement fans. Les illustrations sont extraordinaires. Donc ça, c'est le teasing pour la suite. Bon, alors en Occident, je pense qu'on a tous appris que les caractères mobiles, l'impression à caractère mobile, c'est la modernité. Souvent, on apprend ça, enfin moi, en tout cas au collège, on apprenait ça comme ça autrefois. Je trouve qu'au Japon, il y a eu des caractères mobiles. Ils sont venus soit d'Occident, soit du continent, donc Chine, Corée, et en fait, probablement des deux en même temps. Et c'était des caractères mobiles sur métal, donc qui sont venus donc vers le 16e siècle. Donc ça a été connu au Japon, mais très vite on a abandonné ça. Donc la croissance éditoriale, le développement de l'imprimerie à vocation commerciale avec des masses de diffusion, de production colossaux, a commencé à trouver son essor au 17e siècle. Et dans à la fin du 16e siècle, il y a eu de l'impression à caractère mobile. Et quand on a atteint des volumes qui étaient plus de quelques centaines d'exemplaires, on a abandonné les caractères mobiles pour revenir à ça, la planche de bois gravée. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Et il y en a une, c'est justement l'illustration. Parce que, en fait, l'illustration et le texte comme ça, c'est la même technique. Et comme les Japonais aimaient déjà beaucoup les textes illustrés, en fait, on peut faire sur la même surface de l'illustration et du texte. Donc, déjà, c'est très pratique. L'autre chose, c'est qu'on peut faire des caractères chinois isolés les uns des autres. Et au Japon, on utilise aussi des caractères chinois, donc on peut le faire. Mais en fait, ils utilisaient aussi les syllabaires japonais, donc des petits caractères, des petites lettres qui font des syllabes. Et en fait, ça, c'est pas très pratique de les faire par petits blocs, parce qu'en fait, y a plusieurs variantes, et en général, on les écrit en graphie cursive. Donc ils faisaient des blocs avec une suite de syllabes, mais c'était assez limité. Ça faisait qu'il fallait produire beaucoup de blocs pour finalement pas forcément le même texte. Donc ça faisait des compositions un peu compliquées. Et la troisième raison, c'est que les ressources en métal au Japon étaient limitées. Il y en avait encore, mais vraiment pas assez pour faire des grandes productions. Donc ils faisaient des caractères mobiles en bois. Et au bout de plus de quelques centaines de tirages, en fait, les caractères mobiles en bois se désagrégeaient. Et donc la composition n'était plus très pratique. Donc ils sont revenus à ça. Et ça, c'est une planche de cerisier en général, qui est un bois qui est à la fois facile à creuser et qui, en même temps, est robuste et donc peut permettre d'être utilisé pendant de très nombreuses impressions. Donc, comment ça marche? On a quelqu'un qui a une belle écriture dans son métier, qui fait un manuscrit, donc il a un pinceau sur une feuille de papier, il copie le texte. Ce manuscrit est sacrifié, il est collé à l'envers sur la planche de bois. Et là, il y a un autre artisan spécialisé qui va graver, donc avec des petits ciseaux au sens un ciseau, des petits burins, des bouches, il va creuser. Donc si vous vous approchez après, vous verrez, on voit le creux ici. Ça, c'est vraiment creusé par toutes sortes de bouches plus ou moins grosses. Et on voit la trace des outils ici. Et donc après, on va venir ancrer la surface, c'est pour ça que je les vois commencer à être noires. On ancre la surface et après il y a quelqu'un d'autre dont c'est le métier, c'est aussi une spécialité, qui va faire l'impression, donc il va mettre une feuille de papier, il va tamponner avec un tampon de feuille de bambou et il va enlever la feuille, il va recommencer, il va faire la feuille et donc c'est aussi une haute technicité, donc c'était extrêmement rapide à faire ça, donc il pouvait faire plusieurs milliers d'exemplaires. D'ailleurs, dans le livre, il me semble que Christophe Marquet a inséré cette image de l'éditeur, l'imprimeur. Donc on voit tous les intervenants dans cette chaîne du livre, et puis bon, après, il y a bien sûr le relieur, etc. Et on a parlé de... Là, je peux toucher le livre, parce que je lave les mains, mais on a parlé tout à l'heure du brochage, donc une feuille de papier, c'est un papier, là, c'est du kozo, c'est celui qui est le plus utilisé à l'époque d'Edo, qui est un papier de mûrier. Alors, il n'est pas si fragile que ça, en fait. Il nous semble fragile parce qu'il est très fin. Il n'est pas fragile du tout. En fait, on est toujours étonné parce que... bon, là, c'est que le 19e siècle, mais on peut avoir du papier du 17e siècle qui est toujours dans un état extraordinaire. En fait, comme tous les papiers, il a deux ennemis, qui sont le feu et l'eau. Et en plus, il semblerait que le papier japonais soit particulièrement délicieux. Donc, il a souvent ces petites vermines qui viennent creuser des galeries. Mais... S'il n'a pas ces ennemis-là, en fait, c'est des papiers qui peuvent durer très très longtemps. Et aussi, comme les livres japonais ont des dos souples, là, c'est pas si évident que ça, mais c'est beaucoup plus souple que des livres occidentaux. En fait, ils peuvent moins se rompre. La souplesse donne plus de résistance. Donc, ce sont des livres qui sont finalement assez solides et assez résistants. Et donc, je sais pas si ça se voyait assez là, mais les feuilles sont très très fines et elles sont pliées en deux. Donc, c'est imprimé. En fait, quand on imprime là, Là, il y a deux traits au milieu. Et en fait, là, les cadres que vous voyez là, qui sont autour, bon, c'est ce que vous retrouviez. Là, il n'y a plus les images, mais c'est ce qui est le cadre autour des images et du texte dans le livre. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît un livre imprimé. En fait, quand on voit un livre japonais, s'il y a ce cadre, c'est que c'est une impression comme ça. S'il n'y a pas le cadre, en général, c'est soit un manuscrit, soit un livre à caractère mobile, ce qui est très rare. Et bon, bref, et donc là, il y a, vous voyez, deux traits au milieu, et ça correspond au côté de la feuille, à l'endroit où on a la numérotation. Ouais, peut-être tu peux montrer. En fait, la feuille, une fois imprimée, va être pliée en deux, ça va correspondre au recto et au verso. Voilà, le recto et le verso de la même page. Et sur cette partie centrale, parfois, comme c'est ici le cas, on va avoir la numérotation, le rappel du titre, et la numérotation des pages, la pagination. Et on voit aussi, et ça aussi c'est intéressant que 2024 ait cette planche, parce qu'on voit ici, c'est plus épais ici, et c'était rangé donc, dans des meubles, et donc ça servait à tirer comme ça, ils étaient tous rangés les uns à côté des autres. Et comme les planches sont très résistantes, elles peuvent être utilisées pendant 200 ans dans certains cas. Donc c'est un patrimoine pour les éditeurs, qui pouvaient garder ça et réimprimer. En fait, quand un livre avait du succès, ils pouvaient faire des retirages 10 ans plus tard, 50 ans plus tard. Et quand ils n'en voulaient plus, ils pouvaient le revendre à profit à un autre éditeur et donc faire encore du profit sur ça. Donc finalement, les éditeurs, ce qu'il fallait absolument qu'ils aient, c'était des grands bâtiments pour stocker cette masse de planches de bois.
On n'a pas fait le calcul de combien de planches de bois.
Non, ouais, regardez combien. Je pense que ça représente un bon volume.
À propos de volume, est-ce qu'on sait quelle est l'ampleur de l'édition originale ?
Alors, je sais sûr que ça a été des tirages assez conséquents.
Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Il faudrait demander à Christophe.
Ouais, mais précisément, je ne peux pas te dire.
C'était vendu par petits fascicules ?
Oui, ce sont des feuilletons.
D'accord. Il y avait donc des papiers très fins, mais imprimés que sur le recto.
Voilà, c'est ça, comme tu verras.
C'est replié en deux, oui.
En fait, il y avait un système de bibliothèque de prêt,
oui.
Effectivement, où en fait, c'est une époque d'essor économique, etc., où au Japon, 90% des gens savaient lire.
Alors,
qu'est-ce que c'était le pourcentage ?
C'est un chiffre que j'ai longtemps repris. La dernière fois que je l'ai fait dans une conférence, un collègue m'a dit qu'en fait, il y a une grosse controverse sur ce chiffre-là. Donc, je ne suis plus sûre, mais on disait qu'à la fin de l'époque d'Edo, 90% de la population était capable de lire. En tout cas, pendant longtemps, on a dit que les taux d'alphabétisation étaient plus élevés qu'en Occident à la même époque. Alors, bon, maintenant, je sais, c'est Christian Galland qui m'a dit que c'était pas sûr. Donc, oui, Emmanuel.
Le vieux professeur n'est pas d'accord.
Ah oui, il n'y a pas de plus.
Il y a beaucoup.
Il y a beaucoup.
Puis après, Donc, ça dépend de ce qu'on appelle savoir lire, parce qu'il y a plusieurs types de textes. En tout cas, il y a un assez fort accès à la lecture qui permet un marché du livre.
Il y avait une éducation, il y avait des écoles qui permettaient le fait que les enfants pouvaient lire, les adultes pouvaient lire, et il y avait, ce que tu étais en train de dire, il y avait des systèmes de colporteurs. On compare souvent ça à ce qu'il y avait avec la Bibliothèque Bleue en France. Donc, il y avait des systèmes de colporteurs et de prêts aussi. Même dans des régions, dans des petites villes de province ou même des campagnes où quelqu'un pouvait détenir une petite bibliothèque et puis il y avait un prêt, ou même des gens qui venaient de la capitale et qui transportaient des livres. Donc il y avait une très forte diffusion du livre.
Si tu veux me permettre, on voit des images, des gravures de gens qui sont un peu comme les vendangeurs, vous savez, avec les grosses hottes. Donc sauf que sur le dos, ils ont des livres, ça fait peser un poids complètement invraisemblable. Et donc c'était on dit libraires, mais c'est-à-dire au sens, c'était à la fois des éditeurs, bibliothécaires, libraires. Ça. Prêteurs, avec un sens commercial, vous avez leurs colporteurs qui, dans les villes et autour des villes, partaient avec ces nouveautés. Et justement, on voulait les fascicules suivants, donc pour très peu cher, ils prêtaient ça pour, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, puis ils repassaient une semaine après, et ils reprenaient le fascicule d'avant et ils donnaient le fascicule d'après. Enfin, il y avait vraiment une passion pour la lecture de. Une chose dans ce genre-là, par exemple.
Emmanuel Nosrand de l'INALCO, spécialiste de littérature, et mon professeur, que j'écoute toujours
avec vous. Il a dit un truc sur la qualité différente des éditions. Il faut connecter à ce qu'a montré.
Oui. Alors ça, je peux peut-être rajouter un... Oui. En fait, mais d'une façon plus générale, je le disais hier, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que nous, on a notre savoir et on sait quand on cherche un livre, ce qu'on cherche comme qualité. Et eux, en fait, ils ont leurs yeux
de techniciens. Et en fait, ils arrivent à voir les mêmes choses que nous. C'est toujours très impressionnant. Donc, comme je disais tout à l'heure, les planches, elles peuvent être réutilisées pendant des décennies. Et à force d'être réutilisées, même si le bois est de très bonne qualité, en fait, ça commence à s'user. Donc, comme ça commence à s'épaissir. Tu disais, c'était gras, tu parlais du terme, tu employais le terme gras. En fait, c'est que avec l'usure, les caractères vont être un petit peu plus épatés. Et comme c'est les mêmes planches qui sont utilisées, en fait, quand on cherche un livre, quand on cherche à faire l'acquisition d'un livre ancien, la planche va conserver la date. En général, il y a une datation qui est sur le dernier volume. Mais par exemple, là, on va dire que c'est un livre de 1806, par exemple. Il y aura la date 1806, mais l'impression, elle peut dater de 1890, parce que en fait, on a réutilisé les mêmes bois. Et donc nous, quand on est historien du livre, on essaye de... Qu'est-ce qu'on a ? On ne pourra pas faire de datation exacte, mais quand on va chercher à désigner l'antériorité, enfin si un livre, un tirage est antérieur ou ultérieur, on va regarder ça justement. Si c'est épaté, grave, c'est plus récent. Ou alors par exemple si c'est coupé, si on est sûr que c'est les mêmes bois, et si c'est coupé à un endroit, dans le cadre par exemple, ou sur une lettre, sur un caractère, en fait c'est que forcément c'est une édition plus récente. Sauf que parfois il retaille juste un caractère puis il l'incruste à l'intérieur. Et donc voilà, j'étais très impressionnée de voir quand même dans votre acquisition, en fait, vous avez été capable de rechercher les tirages qui étaient de meilleure qualité ou de faire des choix d'images plus fins. Ouais.
Bon, ça se voit parce que les plaques, elles sont imprimées pour la première fois, donc on peut imprimer très très fin, mais après, comme tu dis, ça s'aplatit quand on imprime, on n'arrête pas d'appuyer avec un truc, donc forcément...
Il y a une usure et qui fait que c'est plus épaté. On remarque au passage la haute technicité des graveurs. Et donc, en fait, même le fait de l'existence de ce livre ou même des estampes de Rouxel était possible, pas seulement grâce au talent des personnes qui avaient fait le dessin préparatoire ou le texte préparatoire, mais du graveur qui va être capable de faire des gravures de moins d'un millimètre, un demi-millimètre, parfois un quart de millimètre d'épaisseur, en gravant sans découper le caractère.
La légende de l'époque, l'histoire était dans la folklore, parce que le singe, ça me fait penser à Hanuman, le dieu hindou, qui est le singe qui est un peu, qui connaît pas ses forces parce qu'il faut le contenir et après il fait des miracles et des trucs comme ça. Pour eux aussi, c'était déjà exotique, et c'était un micmac de choses, de cultures différentes. Est-ce que ça, était surprenant à l'époque déjà, l'histoire même, quoi, le contenu.
Oui. Alors, bon, bah, les singes font partie du folklore, de toute façon, que ce soit en Chine ou au Japon, il y a des singes. Après, Vincent Durand-Estes dans une préface, il rappelle bien ça, le folklore lié aux singes. Alors, par contre, le lien aux légendes hindoues, bah, c'est une excellente question, parce que oui, ça ressemble beaucoup, mais je connais pas bien. Je vais essayer de me documenter, je vous remercie pour cette question. Je sais pas très bien le lien entre cette légende hindoue et ça qui a été repris en Chine. Après... cette histoire-là, elle a été connue, je pense, au Japon via les premières traductions, donc au XVIIIe siècle. Il y avait d'autres histoires de singes facétieux qui existaient, mais cette histoire-là en tant que telle, je ne sais pas si est-ce qu'elle était vaguement connue. Il y a eu des savants, des études folkloriques qui ont avancé l'hypothèse que c'était à l'origine d'une autre légende qui existe au Japon, qui est très populaire, qui s'appelle Momotaro, d'un petit garçon qui est très fort. Alors, ce n'est pas l'histoire du singe, hein, mais le motif ou la structure du récit est très similaire à celle-ci. Et ça serait probablement plus vieux que l'arrivée de ce roman au Japon. Alors, la filiation est contestée, mais toujours est-il qu'il n'est pas impossible que des versions orales différentes ou des versions écrites différentes aient existé antérieurement à l'arrivée de ce roman au Japon. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Sur la filiation avec les légendes hindouistes,
C'est un peu différent parce que c'est quand même un dieu, des trucs comme ça, mais c'est pas un roi, mais c'est quand même le singe qui a des pouvoirs, il faut le contenir parce qu'il fait n'importe quoi, mais en fait, finalement, il a la force brute, mais du coup, quand on lui
cible bien,
et puis il est très fidèle, il veut tout, voilà, donc c'est exactement
ça. C'est
le même motif, visiblement deux, sauf que donc ça, c'est très classique dans le hindou, que ce soit en Inde ou plus sud encore. Hein, donc c'est, voilà, on a donc beaucoup de reconnaître des personnages.
Non, mais c'est ça.
Mais comme c'est post, c'est créé le Bouddha en fait. Donc si le bouddhiste, il est allé voyager, il a peut-être ramené cette histoire. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que pour les lecteurs, c'était quelque chose d'exotisme ou est-ce que c'était déjà intégré dans
le Question qu'on posera à Vincent Durand-Dastès, qui est le grand spécialiste de la figure du singe.
Mais c'est que dans sa
je me renseignerai pour pouvoir répondre à cette question si on me la repose une autre fois.
C'est vrai que Vincent Durand-Dastès, il aiguille vers pas mal de différentes légendes qui coexistent en Chine.
Chine. Plutôt.
En Chine, avec notamment la légende, on raconte que un prêtre bouddhiste jouait tous les jours aux échecs avec un vieux gibbon tous les matins. Enfin, c'est ce genre de croyance un peu magique qu'il y avait effectivement dans la Chine du Moyen Âge. Bon, c'est vrai que du coup, effectivement, là, ça donne l'impression effectivement qu'il y a dû y avoir quand même des passerelles évidentes.
Mais de toute façon, quand on commence à creuser dans ce récit, en fait, comme il y a beaucoup de choses symboliques par rapport aux cinq éléments de la géomancie chinoise, il y a beaucoup de références au taoïsme, aux différents courants bouddhismes, aux querelles entre les taoïstes et les confucianistes qui font des espèces de battles, de défis. Par exemple, il y a un roi qui est malade, il faut le guérir. Alors, qui est-ce qui va mieux le guérir ? Donc, c'est à la fois très drôle et en même temps, si on commence à creuser, en fait, on se rend compte que sans doute, il y a un substrat des différents courants de pensée ou des différents courants religieux de l'époque. Donc, qu'on développe pas du tout, nous, pour le coup, dans ce livre-là. Donc, ça va être peut-être des développements ultérieurs dont s'empareront d'autres personnes. En tout cas, par rapport à la base bouddhisme, quelques éléments de base de confucianisme, il y a un substrat qui existe et qui était beaucoup plus familier aux lecteurs japonais que pour nous aujourd'hui en France, évidemment. Mais en même temps, en fait, il y a une grande constante du livre japonais à l'époque d'Edo qui est que les gens lisent de la fiction pour leur loisir, pour s'amuser, mais aussi pour apprendre quelque chose. Et ce côté-là de on dissémine des petites connaissances à gauche, à droite, c'est quelque chose de constant dans le plaisir de la lecture de l'époque d'Edo. Alors même si c'est chinois, je suppose que c'était un peu pareil dans la Chine des Ming, mais en tout cas, donc est-ce que c'était nouveau, pas nouveau? Je pense qu'ils apprenaient des choses, ou ils vérifiaient des choses. Par exemple, il y a la liste de tout le canon bouddhique, à la fin, tous les livres du canon bouddhique, ou la liste de tous les bouddhas, c'est des choses, ils ne les connaissaient pas par cœur. Donc en lisant, ils s'amusent, et puis ils lisent des espèces de catalogues qui leur donnent une petite culture générale.
Alors, au milieu du 19e siècle, quand les Occidentaux sont arrivés au Japon, par exemple, ont découvert des stands aussi des livres d'images, ils en ont acheté en vrac, puis pour les revendre ici, parfois ils les ont dépiautés, redécoupés, reliés, et donc il peut traîner en France dans des bibliothèques ou chez des particuliers des livres qui ont l'air japonais, mais qui, c'est un matériau japonais, mais qui a déjà été restructuré aussi bien dans les formats, donc c'est pas si nouveau en fait.
Par rapport à une reliure occidentale, le fait de dérelier et de rerelier est vachement plus simple.
Ouais, les bétros sont déjà plus. Du
gâteau. Des glaçons. C'est
ça. Est-ce qu'on a idée de que ce livre ait pu être lu en Chine à l'époque?
Je ne pense pas. Non,
non, ça ne circulait pas du tout dans ce sens-là. Non.
Tout vient toujours de Chine vers le Japon.
C'est ça, mais ça aurait pu.
Les mammouths, le bouddhisme, l'écriture, le communisme. C'est
le riz. Non,
pas le communisme.
En passant par la Corée. Pas le communisme. En passant par la Corée. Alors,
le truc qui est important, c'est de ne pas les mélanger. Ils sont sur un blister. Donc nous, on s'est fiché à ça.
Remettez-les bien au même endroit. Oui, c'est ça. Remettez-les bien au même endroit, ça nous permet
donc, d'avoir les mains propres, pas de bijoux en général. Et normalement, on conseille de les manipuler par le haut, une page à la fois, et en laissant sur la table.
Et pas... Enfin, on peut ouvrir, mais il ne faut pas mettre les doigts. Ah tiens, il y a un truc là, et puis tricoter les illustrations.
Et ils pèsent combien, alors, votre bébé, en librairie?
On a...
Ça, là.
Le nom, il ne sera pas très, très lourd.
Un kilo.
Non, mais je sais pas. On n'a que des maquettes en blanc qui ont changé. Du coup, on n'a pas encore le blé.
Ça fait même pas un kilo.
Voilà.